Comment c'est cette rencontre, première rencontre autour de l'exposition, comment bâtir un univers qui ne s'effondre pas deux jours plus tard, si bien, avec Marion Zio, qui est docteur en art et critique et commissaire d'exposition. Marion, commissaire de l'exposition, co-commissaire de l'exposition de la Maison Populaire, avec Virginie Rémy, co-commissaire de l'exposition. Et l'ensemble des œuvres qui sont présentées ici vont faire l'objet d'une discussion autour de pas mal de questions qu'on a évoquées jusqu'à présent, mais on partira probablement du sous-titre de cette exposition qui est Sibula, qui est un peu le point de fin de nos propres discussions.
Sujet à débat,
bien. Sujet à caution s'il en est, donc on aura quoi parler. Je vais simplement vous rappeler le nom des artistes qui participent à cette exposition, et puis après je laisserai la parole à Marie-Evelyne.
Peut-être
que
vous pouvez
présenter
aussi.
Et oui, je ne me suis pas présenté moi aussi. Donc moi je suis Thierry Fournier, je suis artiste et curateur, justement. Je m'occupe également d'un nouveau programme de recherche qui commence à l'examen sur le commissariat de l'exposition. Alors les artistes, donc, c'est Eva Schettel, Côte Dimélio et Eliott Paquet, Kylian Ledo et Ulysse Klotz. Aaron Farabi, Coléo, qui est un duo qui est derrière nous, pour faire le conifère, qui est battu de Joey Hamilton, qui est derrière nous. Florian Cochon et Alain Bazin, qui prennent une promenade sonore qu'on vient de faire tout à l'heure, juste avant. Pardon. Une des promos qui est très très belle, qu'on vous invite vivement à faire si vous n'avez pas fait. Edouard Fouffra et The MP Company, qu'on voit ici. Et Danny Ryan qui a créé la pièce qui est dans la salle, qui est juste à côté. Je vais laisser la parole à Marie-Evelyne. Peut-être que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait avant, ce que vous faites en ce moment aussi, votre projet, comment vous en êtes arrivé là, etc.
Alors, comment on est arrivé là? Moi, déjà, j'ai un parcours un peu jardin, parce que j'ai commencé des études plutôt scientifiques, et je me suis réorientée vers mes premières passions, donc vers l'histoire de l'art par la suite. Et donc, j'ai découvert les arts numériques, on va dire, pendant ces études. Maison des Arts de Créteil, justement, où j'ai rencontré la femme avec qui je travaille aussi depuis bientôt 3 ans, qui s'appelle Anne Guigny, avec laquelle s'attache à promouvoir et à inventer des dispositifs pour représenter la scène artistique de la planète.
Je viens plutôt du ciné documentaire à la base, et je suis arrivé au bout d'un moment à l'art numérique par la Maison des Arts de Créteil également, sur le Festival Exit, comme régisseur au début, comme réalisateur d'œuvre, et maintenant comme commissaire.
Oui, parce que tu es également co-commissaire en même temps que la Maison Populaire, qui est aussi co-commissaire avec Emily Fouillou de l'exposition Perception, qui est présentée au Festival Via en ce moment, et au Festival Exit à partir de cette avril. deux co-commissariats en même temps. Vous nous parlez un petit peu du cycle général de la maison populaire.
Comment on est arrivé là, aussi. Voilà. Avec Vladimir, on avait s'est rencontré aussi sur le terme des arts numériques, et c'est vrai qu'on a commencé à échanger des idées plutôt voilà, sur, sur le travail de certains artistes, sur ce qu'on aimerait faire comme exposition, ce qu'on peut aussi demander de créer une exposition. Et donc, assez rapidement, c'est en gros qu'on avait un peu des idées communes, en tout cas sur ce que pouvait être une exposition et des intérêts communs sur certains thèmes. Donc on a commencé à faire des expositions. Au départ, on avait des appartements particuliers qui nous prêtaient pour un soir une exposition un peu festive avec de très jeunes artistes qui n'avaient soit pas ou alors très peu exposé. Qu'on présentait à côté d'artistes qui, eux, étaient un peu plus affiliés. Dans cette expo, du coup, on gardait aussi un mur libre où le public qui demandait, donc si dans le public il y avait aussi des artistes qui avaient envie de présenter leur travail, du coup, pouvaient accrocher sur ce mur autant d'un soir leurs travaux. Et tout ça a été fait pour créer un peu une discussion. Autour des travaux de chacun et permettre aussi aux précédents artistes de parler au moins une première fois de leur travail à un public. Ensuite, du coup, il y a eu cet appel à projet de la maison populaire, le terme étant. Pour monter un festival tourné vers les arts numériques, électroniques, multimédia, en tout cas, surtout tourné vers la musique électronique et expérimentale, on essaie de présenter aussi bien les lives à côté de performances audiovisuelles et en mettant aussi tout ça en scène avec la présence de l'installation d'art numérique.
Ici, donc la Maison Pop a lancé un appel à projet l'année dernière. Dans la thématique, c'était espace-temps, sous-titré intuition, découverte, connaissance. Auquel on a répondu donc, avec ce projet, comment bâtir un univers que c'est qu'on voit pas les jours plus tard, qui est en fait le titre d'un texte de Philippe Cadic que lui présente comme étant un discours ou une conférence qu'il aurait faite. On a assez peu de traces de ça en fait, donc il y a déjà une espèce de fiction un peu. S'est créé autour de ça, et c'est un texte où déjà il explique que le texte commence par il raconte une interview qu'il a fait pour Radio Paris en 76 avec Norman Schumrad, qui est un autre auteur de science-fiction assez intéressant, où il était interviewé pour parler de la montée du fascisme dans les tasses qui tournent, qui s'évendent, et sur le bateau pirate aussi avec des gamins partout autour. Et au fur et à mesure, elle raconte un peu comment lui, justement, ce qui l'intéresse, c'est de bâtir des univers qui s'écroulent. Et des univers dans lesquels la réalité se désagrège au fur et à mesure. Et elle raconte des scénarios qui sont assez intéressants. Et donc, le texte devient, au bout d'un certain temps, un peu religioso-mystique, mais Cadic, c'est un auteur qui est passé par des. Pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est passé par des épisodes paranoïaques et psychotiques. Et en fait, dans l'ensemble de son œuvre, on a forcément un peu de mal parfois à distinguer ce qui tient du paranoïaque, ou ce qui tient de la fiction, ce qui tient de quelque chose de vraiment sincère, et ce qui est intéressant aussi, la porosité de ce frontière. Donc on est parti de ce texte-là pour essayer d'aborder ces notions d'espace-temps. Donc à travers trois expos, donc la première simulacre, la deuxième qui s'appelle Relativité, qui va se tenir à partir du début du mois de mai jusqu'en juillet, et qui va aborder la perception du temps, le temps d'une part scientifique calculée, mesurée, et du temps psychologique, celui qu'on dit. Et la troisième expo qui s'appelle Entropie, avec un E, qui va plutôt aborder la question de l'espace et de comment de la désorganisation des systèmes. En fait. Voilà.
Comment le temps agit sur cet espace. Et sur le passé.
Ça, c'est en octobre, dans un million d'années à peu près. Et donc, on a commencé par un simulacre, donc à essayer de se poser directement sur une question espace-temps, ben, où et quand.
Moi, je ne me perds pas la parole parce que peut-être aussi un peu rentrer dans les œuvres, je pense que pour le public, c'est assez intéressant. Puis après, vous rentrez sur ces questions similaires, est-ce que ça peut nous évoquer tout en laissant quelque chose un peu ouvert. C'est pareil pour le public si je vais interagir.
Moi, je crois que c'est un truc qu'on s'est dit, c'est que si vous avez des questions, n'attendez pas la fin de la table ronde pour les poser.
Je proposais rien, je trouve. C'était juste de relire les petits bouts de texte que vous avez donné, comme point de départ pour les cours, parce que je les trouvais très beaux, et qui nous donnait à réfléchir à tout ça. Enfin, je sais qu'on a beaucoup discuté
entre vous à partir de ces deux paragraphes.
En fait, ça fait pas mal de se les dire, et puis qu'après, vous nous parlez des œuvres, parce que ce serait bien. Comme ça, on peut aussi peut-être faire le fait de dire. C'est plus un peu. Où le monde a-t-il lieu et quand ? Que sait-on du monde et que pourrait-on en savoir d'ailleurs ? Qu'en voit-on ? Qu'en entend-on ? À travers quel filtre ? Et quelle est notre place au sein de celui-ci ? Ces questions que se posent des philosophes, des chercheurs, des artistes depuis des siècles, nous prétendons nullement les résoudre, mais pour le moins continuer à les poser. La réalité, c'est ce qui ne disparaît pas lorsqu'on cesse d'y croire, répondait Philippe Calic à une étudiante en 72. Mais si l'on ne sait mieux dire, que reste-t-il alors ? Tandis que la copie cherche à imiter l'existant et ne survit qu'à travers son original, le simulacre est une variante de la réalité telle que nous croyons la connaître. Chimère, géographie fantasmée, non-lieu, non-temps, simulacre propose un parcours d'œuvre d'art d'aujourd'hui comme autant d'expériences qui interrogent le réel, ses limites et notre rapport à lui, et qui, elles, non plus, ne se situent pas forcément vers où les attend. Le texte est en bien bonjour et frère. Ça vous dit de partir de là pour peut-être. Vous raconter aussi comment vous avez choisi les œuvres par rapport à cette idée-là, et pour leur montrer que revenir en peut-être quelques exemples, pas forcément plus, mais on va avoir deux exemples.
Alors, c'est vrai qu'une des. Pour répondre à ces interrogations, une des premières pièces à laquelle on a pensé, donc c'est l'hypergéographie de John Newton qui est derrière vous. Qui est constitué de trois morceaux, on va dire, avec à droite donc un tumbler qui est en ligne, qui est sorti sur Internet, donc c'est un tumbler qu'il a constitué pendant un an, si vous le
savez. Bien, je pense à la belge.
Un tumbler constitué d'un collage de plusieurs centaines d'images qui sont tirées exclusivement d'Internet et qu'il a constitué pendant toute une année et qui représente quelque part la quantité astronomique d'informations et d'images que nous propose Internet en permanence. Et du coup aussi selon ses choix, peut-être une de ses visions d'Internet au moment où, où il constituait ce, ce développeur. Donc au bout d'une année, il a arrêté du coup de l'alimenter et a fermé un peu cette, cette idée de flux perpétuel d'images d'informations. Et il a pour le figer sur le livre qui est dans la vitrine, qui est une impression du Tumblr sur un format, sur un livre de 4 mètres de long, sur un format plutôt de carte, et qui du coup reste aussi une trace de cette histoire d'Internet plus figée, puisque vous avez pu voir à un moment donné dans le Tumblr, les images disparaissent, puisque si le site sur lequel elle est surprise, vous avez sur la droite. Donc, n'hébergez plus ces images ou les supprime, du coup, elles sont évidemment supprimées du Tumblr. Donc, ce Tumblr vise à se désagréger comme ça au fur et à mesure que le temps passe. Du coup, sur la gauche, là, l'autre vidéo, vous avez quatre vidéos de une minute environ, dont une en particulier qui s'appelle Père Géographie, donc c'est pas celle-ci, qui reprend donc, le principe du collage. Et alors que sur son Tumblr, on a une sorte de nœud espace-temps, puisque tout est. Enfin, voilà, c'est ce que représente aussi Internet, donc une infinité de choses simultanées dans un même endroit, sans relief. Dans les vidéos, du coup, on va avoir un peu la même idée de collage d'images, mais avec un autre rapport justement à l'espace et au temps, puisque les collages nous proposent du coup, par une superposition de plans différents, donc une profondeur d'espace dans ces vidéos. Et le temps très très court de ces vidéos qui, en boucle, les oblige à se répéter indéfiniment sans pouvoir varier.
En l'occurrence, c'est celle-ci, hypergement.
Oui, ça, c'est hypergement. Et du coup, à Newton, c'est un peu une exposition aussi.
Ça fait un peu une exposition dans l'exposition.
Ouais, c'est un peu. Une sorte d'exemple assez intéressant, je trouve, d'hybride entre le commissariat et ce qu'on appelle la curation, qui ouais. C'est bien fait de sélectionner, de trier, collectionner et représenter les éléments qu'on va trouver et de développer un espace qui est à la fois une exposition, probablement aussi ce qui lui vient de la pensée, ses sources. C'est point de départ, c'est un objet qui n'a pas de temporalité fixée. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien imaginer là-dedans des choses qui collectent sur Internet parce que ça les intéresse et que ça lui donne la pensée et que ça constitue des bases pour ses propres travaux, que des choses qui retransmettent tout ça parce qu'ils le rencontrent. Et en même temps, tout ça constitue tout ça sort quand même de l'espace. Quoi.
Oui. Et puis dans la forme aussi, visuellement parlant, parce qu'on s'en tient juste au niveau de la surface, le plastique, c'est vrai qu'on remodèle complètement les schémas perceptifs et de la Renaissance, on intègre de différentes vitesses, des lenteurs, des superpositions aussi, on ne sait plus exactement sur quel plan on est, on la vit à différentes matières, des choses plus ou moins organiques, des choses qui paraissent très pseudo-virtuelles, immatérielles, et encore une fois dans cette exposition, c'était tout le dilemme qu'on avait quand on a préparé tout ça. Il y a des mots clés qu'on ne peut plus utiliser, qui sont tellement répétés, qui en sont devenus galvaudés, dont le terme simulacre, dont les termes réel, virtuel, réalité, simulation. Et au point qu'à un moment, je me souviens, Vladimir m'a dit non, mais on ne va peut-être pas parler de simulacre. Et finalement, bah, si, on va en parler parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus en parler aujourd'hui. Et que si on parle de simulacre, il faudrait remonter à Platon, passer par Baudrillard ou je ne sais quoi. Alors moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était justement... Et puis le réalisme spéculatif, et puis Quentin Meillassou, et puis c'est vrai qu'il y a non, pas mal de points en fait, qui semblent en fait dire que si, au contraire, il faut se reposer cette question, et que encore une fois, c'est la manière dont on se la pose qui fait qu'eh bien, on repense le contemporain, on repense une sensibilité, etc. Et vous, ce qui me plaît beaucoup dans ce que vous avez proposé, c'est bien, la friction que vous mettez en place avec Tadic, avec la science-fiction, avec ces thématiques-là. Mais peut-être
Non, mais du coup, tu sais, parce que quand tu as commencé à tirer le fil du cinéaste, est-ce que tu pourrais continuer là-dessus, à l'instant? C'est-à-dire, justement, quand tu dis c'est une notion qui aujourd'hui a tendance à être un peu dévaluée, voire mal considérée, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça?
Moi, le mot cinéaste me fait penser à ces mots fourre-tout, comme le mot réseau, dont Pierre Dussault, dans Petit du réseau, disait. Oui, qu'on a tellement utilisé, réutilisé, qui n'a plus de sens, qui n'a plus de symbolique, Et revenons sur cette question du simulacre, au final, on ne sait pas si c'est plus faux, si c'est notre perception de la réalité, si qu'est-ce que c'est le vrai, qu'est-ce que c'est que la réalité du son. Et à la fin, on le disait même quand on faisait la visite, c'est qu'à la fin, on se posait la question, on ne sait plus nous-mêmes où on en est de ces questions entre réel, réalité, etc. Et pour développer et peut-être renvoyer sur un point de vue, j'avoue moi-même être à peu près désemparée en fait pour énoncer quelque chose. Je pense que la table ronde nous permettra peut-être d'aller au-delà de cette impasse, parce que... voilà.
Alors peut-être du coup, puisque tout à l'heure tu disais non, on ne va pas repasser par Platon, par Nietzsche, par Baudelaire, ça.
Allez, on va parler de Baudelaire.
Parce que quand même, la définition de Baudelaire est vraiment intéressante. Moi, je l'ai relu. Ah, c'est fait quelques mois, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas ressorti.
Mais voilà, moi ça me fait plaisir également de relire un peu Baudrillard, voilà. De me replonger dans d'autres auteurs. Et on se rend compte que toutes ces questions-là, eh bien, avec justement le numérique, avec les jeux vidéo, avec l'esthétique que cela développe, parce qu'il faudrait rentrer dans chacune des œuvres, mais on en revient à avoir d'autres enjeux qui peuvent être parfois même politiques, oui. Qui peuvent être. On va peut-être faire une
petite. En fait, moi ce que je voulais vous proposer, c'était juste un parallèle entre Baudrillard et ce qu'il y a ici à droite, c'est-à-dire de la Pré-Compagnie. Baudrillard, donc c'est pour mémoire, Baudrillard a écrit un livre qui s'appelle Simulacre, la simulation en 81, dans lequel il expliquait que le simulacre n'était pas une imitation ou un redoublement du réel, ni une parodie, mais une substitution. C'est-à-dire un simulacre, c'est quand on remplace le réel par quelque chose qui tient lieu du réel, qui vient prendre la place du réel, qui ne fait plus référence au réel, comme le profil par exemple, qui vient vraiment se substituer à ce réel, c'est-à-dire qui table donc sur une dissuasion et une disparition du réel par un double opératoire, une machine signalétique, programmatique, impeccable, qui offre tous les signes du réel et qui en court-circuite toutes les péripéties. Et quand même, je trouvais cette phrase assez belle, enfin, c'est-à-dire que, par en juste, c'est que tout à coup, en lisant ça, ça me faisait penser à Debord. Et à la société du spectacle, en fait. C'est-à-dire, c'est très exactement ce dont Debord parle quand il parle de la société du spectacle, c'est-à-dire d'un dispositif qui, progressivement, se substitue au réel, et qui, à la fois, prend la place du réel, et devient le dispositif qui légitime le réel. C'est surtout ça qu'explique Debord. Donc d'ailleurs, Baudrillard ne parle pas de partenariat, Baudrillard ne parle pas de légitimation, alors que Debord, lui, parle vraiment de légitimation. Et justement, je faisais un lien avec ça, c'est-à-dire AMP contre la. Mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler dans ces termes-là, parce que tu développes, parce que quand même, si on n'en parle pas dans ces termes-là, c'est un peu difficile.
Si, on est toujours bien être obligé. Qui
échafaude des pochettes, des side notes, des critiques, des objets, des notes de pochettes, etc. À propos des morceaux, etc. À propos de positions qui n'existent pas. Donc ça, eux, pour le coup, sont vraiment à cet endroit-là. C'est-à-dire tous les symptômes de quelque chose qui serait un objet, qui n'existe pas.
logique, c'est là qu'il n'y a pas de musique.
Mais qui redevient du coup quelque chose de vrai et de réel, puisque effectivement, donc ces objets existent.
Comme ça.
L'histoire de ce disque existe. La musique de ces disques qui existent existe,
ouais.
Puisque Pepe Compagnie demande, après avoir inventé du coup, ces groupes avec leur histoire, d'avoir créé les pochettes, de leur avoir donné un titre, des tracklists et toutes ces choses-là, du coup, demande à des vrais groupes, pour le coup, de faire des reprises de faux groupes. Faux morceaux de faux groupes.
Vous avez compris, en fait, on est sur du vrai, faux, faux, vrai. Parce que, évidemment, je pense que si on ne connaît pas exactement la pratique, on peut être perdu. Je sais, c'est pas sûr. Donc, tout ça, c'est vrai et c'est faux, en fait. Et du coup, je voudrais moi rebondir un peu aussi sur cette phrase qu'on a déjà lue, mais justement dans la conférence, une vraie fausse conférence de Gadi qui répond à cette étudiante et qui dit la réalité. C'est la seule chose qui ne disparaît pas lorsqu'on sait y croire. Tu as bien utilisé ce mot, ça existe puisque c'est vrai, c'est comme certains qui diront mais Dieu existe puisqu'il a quand même ses effets par les croyances et la force que chacun peut projeter. On ne va pas rentrer dans des considérations pseudo-religieuses, mais justement, ça me permet peut-être d'envoyer aussi sur dans la conférence de Gadi qui donc commence en se demandant mais qu'est-ce que c'est le réel. J'ai essayé d'y répondre pendant 30 ans, ou en tout cas pendant tout le temps que j'ai essayé d'écrire des romans. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que lui-même est un faiseur de réel, et il y a une petite phrase qui dit qu'en tout cas, ses éditeurs aimeraient que ce soit ça, et c'est à ce moment-là aussi qu'il sort cette phrase comment construire un monde qui ne s'écroule pas en deux jours, en tant que lui, faiseur d'histoire, faiseur de petites. De récits comme ça. Et en fait, ce qu'il dit juste en suivant, ou plutôt non. Bon, ce qu'il dit juste en suivant, c'est. J'ai fait ma chute, c'est pas grave. Ce qu'il dit, c'est que, bon, lui, moi je me raconte un secret, ce que je veux, c'est que ça se démolisse. Et juste avant, en fait, il fait un petit passage où il dit ces faiseurs d'histoire, c'est d'autant plus dangereux qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où bien les publicitaires, les religieux, les grands firmes, tous construisent un imaginaire, on l'appelle un récit ou du réel, qui s'insinue dans les esprits des gens, et qu'aujourd'hui il y a l'équipement technique, l'appareillage, les conditions qui permettent, les conditions appareillées, qui permettent justement à ce que tout cet univers prenne, si vous voulez, une consistance à travers l'appareillage. Et là, il fait référence à l'électronique, mais aujourd'hui, avec les jeux vidéo qui impliquent une implication particulière du visiteur, je crois que la question aussi du visiteur, on en avait parlé dans les préparations, est très importante aussi quand on aborde cette exposition. Et lui, il faisait aussi un parallèle par rapport évidemment à la télévision et à ce qu'on pouvait voir sur sa fille.
Oui, c'est ça, parce que avec cette question, c'est vraiment que perçoit comme réel et complètement personnel, puisque ce qu'on croit réel, justement, quand tu parles de sa fille, c'est ça, c'est qu'on s'imagine en regardant sa fille regarder la télé, qu'est-ce qu'elle peut bien comprendre de ses histoires et vraiment ce qu'elle en comprend pour elle, ce qui est vrai. Parce que du coup, chacun avec ses armes, du coup, va vivre une réalité différente de son voisin.
Et en tant que bon psychotique paranoïaque, évidemment, il se pose une question qui nous touche aujourd'hui particulièrement, surtout dans le contexte économique dans lequel on est, où on est plus sur une forme de pouvoir, mais peut-être aussi de psychopouvoir, où justement tout passe par un système symbolique, un système d'affect, un système qui va nous contrôler ou nous donner l'impression que choisissons ceci ou cela, cela vient de notre propre volonté, alors que ce sont des choses qui ont été infusées comme un sachet de thé. Enfin, ça, on le sait, on le pense, mais alors du coup, avec les œuvres qui sont ici, je crois qu'il y a des petits rebonds qui peuvent être intéressants, mais moi j'aime beaucoup cette œuvre de Coyot.
Ce que vous voyez derrière nous, c'est un morceau d'un ensemble plus grand, où du coup, Coléo recrée de toutes pièces une performance qui a été
Rinchi, s'était posé la question de qu'est-ce qui se passait dans son monde, où est-ce qu'il vivait, voilà, il vivait sur Terre, il vivait dans une ville, chez Delahaye, il ne pouvait pas encore vraiment appréhender les éléments, donc ce qui lui ressemblait le plus, en gros, c'était les gens. Donc il s'est dit qu'il allait suivre les gens. Donc il choisissait une personne au hasard dans la rue par jour. Donc pendant un mois, il a suivi une personne par jour et selon des principes bien précis. Et du coup, il s'interdisait d'arrêter de suivre cette personne tant qu'il pouvait encore la suivre. Aussi, cette personne allait au cinéma, il allait aussi, elle allait au restaurant aussi, elle allait à la piscine aussi. Donc il arrêtait de les suivre évidemment quand on rentrait dans un espace plutôt privé, dans un taxi. Et du coup, il prenait des notes sur les réactions de ces personnes, qui évidemment, au bout d'une journée, la plupart du temps finissaient par se rendre compte qu'elles étaient suivies, et du coup, modifiaient leur comportement à cause de sa présence, et lui faisait complètement fi du fait que le comportement ait changé à cause de lui, et du coup, essayait d'interpréter de façon tout à fait logique et tout à fait simple ses comportements. Donc il était un peu paranoïaque, il pouvait ressortir de ses notes, et repris ici dans cette partie de cette recréation de performance. Donc Oléo refait exactement la même performance qu'ils ont créée dans Liberty City, donc qui est la ville de GTA. Ils ont passé tout ça en noir et blanc, avec des screenshots de leur poursuite, toujours en noir et blanc, pour vraiment coller à 100% à l'esthétique qu'avait pu utiliser Rinchi. Et donc ils ont fait la même chose qu'à Rinchi, ils ont même créé l'avatar de Rinchi, donc ce personnage en noir qui suit du coup les PNJ, les personnages non joueurs dans GTA. Donc, pendant un mois, ils ont fait la même chose, avec leur petit avatar, ils ont suivi une personne par jour dans GTA, donc un PNJ qui est une vraie personne, pour le coup, qui est complètement dénué de toute émotion, réaction, puisqu'elle est juste programmée pour aller d'un point à un point B, exactement, c'est un morceau de décor, c'est même plus un vrai être humain. Et donc voilà, ils ont suivi un personnage par jour, et de la même façon que Rinchi, ils ont pris des notes sous forme de tweet, expliquant de la même façon qu'à Rinchi, donc les réactions que lui pouvait comprendre, en tout cas, de ces personnages. Donc, on se rend compte qu'effectivement, on a beaucoup de remarques assez paranoïaques sur les réactions de ces personnages, puisque, en plus, ces personnages, pour le coup, n'ont pas vraiment de vrai.
De la même façon que Rinchi commentait ses poursuites en faisant comme s'il était un observateur transparent et qu'on ne pouvait pas remarquer, eux, ils racontent la poursuite comme s'ils n'étaient pas dans un jeu vidéo. Donc ils prennent au pied de la lettre pour la réaction des PNJ. Si au moment où un PNJ se fait renverser par un camion, évidemment quelques secondes après, le PNJ se relève et repart en marchant. Donc eux vont comprendre que dans Liberty City, les hôpitaux sont tellement dangereux que les gens préfèrent ne pas y aller et continuer à leur vie. Donc il y a ce parallèle-là aussi qui existe, et donc ils documentent tout ça assez consciencieusement. Ils expliquent aussi comment ils reprennent le même processus, le même schéma de poursuite.
Peut-être aussi cette œuvre, sens un peu. Alors, c'est vrai qu'il y a un passage qui est super, je l'attends moi aussi, c'est quand il se fait renverser par le camion, parce qu'après il va chercher le conducteur et il revient. Mais c'est juste un figurant en fait. Comme quoi finalement les extras ont une fonction qu'on leur donne si on veut bien leur accorder. Voilà, mais du coup, ces personnages-là réagissent comme ça. Parce qu'ils ont été joueurs et là, à cet endroit-là. Je pense qu'il y a cette question-là aussi dans cette pièce où ce monde existe seulement quand nous, on est physiquement, quand en tout cas, quand on est en train de l'observer.
Et si on ne l'observe pas, est-ce qu'il existe? Et s'il existe, qu'est-ce qui s'y passe?
Ce qui est d'ailleurs une chose qui pourrait être un début très commun entre cette pièce et cette pièce, c'est-à-dire que des objets qui sont des traces de la réalité, tout à coup se retournent et deviennent la source de la pièce elle-même, de l'œuvre. C'est-à-dire là, les objets qui sont tirés en tant que documentation, ici, ce qui d'ordinaire est le signe d'un vinyle qui se retourne et qui devient la source du vinyle, et là, quelque chose qui est le PNJ, c'est-à-dire le personnage luminaire, comme ça, figurant, qui devient la source unique de ce qui se passe. Et peut-être d'ailleurs, en plus, ça peut nous faire rebondir sur un Sarokin aussi, parce que dans un Sarokin aussi, on parle des limites.
Et du coup, c'est la vidéo parallèle 2 de Aaron Sorokin, donc c'est une série de 4 vidéos, de parallèle 1 à 4, où il confronte une certaine réalité avec la représentation, avec sa représentation dans les jeux vidéo. Par exemple, parallèle 1 va mettre côte à côte des extraits des premiers films du cinéma ou avec des représentations de la nature et des extraits de jeux vidéo avec une représentation de la nature également pour essayer de comparer les deux. Et donc dans ce deuxième volet de cette série, Farocchi utilise des extraits d'un certain nombre de jeux vidéo et essaye d'en explorer les limites, de ces mondes, d'essayer d'aller au bout de la carte en fait, et de voir jusqu'où ça s'arrête et comment les designers du jeu vidéo ont pensé matérialiser ou ne pas matérialiser la fin de ces mondes et comment ils créent le bout, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on va au bout en fait. Et en fait, souvent, ce qui se passe quand on va au bout, c'est ça, parce qu'il n'y a pas trop le choix. Ou alors c'est Minecraft qu'on voyait juste avant, qui est généré de façon procédurale, c'est-à-dire que l'univers se construit au fur et à mesure que le joueur avance. Mais si le joueur n'avançait pas, il n'y aurait pas d'univers à cet endroit-là.
Dans Minecraft.
Oui, mais enfin.
Oui.
On meurt pas, mais.
Et Aaron Farocchi travaille souvent là-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez les autres vidéos, les autres travaux d'Aaron Farocchi. Il y a une vidéo qui est très simple dans laquelle il travaille sur le point de vue de caméra à partir duquel on filme les protagonistes du jeu. Donc là, n'est pas la question de la limite, mais la question de la limite du cadre. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se qualifie et comment, un peu une sorte de démarche à la Serge Dallaire, finalement, quel est le point de vue éthique impliqué par le point de vue de la caméra dans une vidéo. C'est Mario, c'est vrai que tu parlais d'esthétique de l'épuisement qu'on avait dans les échanges.
D'ailleurs, c'est sûr que tu savais, Julien, parce que je participé à l'exposition pendant mon jeu de création, commissarié par Carole Pelletras et Tim Cadino sur un espace en ligne qui s'appelle White Screen. Et c'est vrai que dans leur
commission.
Tu en faisais partie également, j'avais mon internet. Et c'est vrai que j'ai plein de trucs, c'est ce qu'il a fait finalement. Et donc, du coup, dans ce projet de commissariat, ce qui semblait se dessiner, et c'est en tout cas comme ça, quand moi j'ai écrit donc un texte à propos de ce travail, ce projet de commissariat, ce qui semblait se dessiner, c'était que, effectivement, toutes les œuvres qui étaient représentées, les propositions, donc il y avait une grosse entrée, on va dire, digitale, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant. Je me méfie de tous ces mots, hein. Je ne sais plus, il faut dire numérique maintenant, dire digital. Ça devient. Ouais. Donc en fait, pour reprendre le fil, donc toutes les propositions semblaient aller dans le sens d'une tentative effectivement d'épuisement des possibles ou de comme pour ici ou pour Coléo, d'aller voir ce qui se passe dans les estras, dans quelque chose qu'on avancerait sans finalité ni but. Alors du coup, peut-être qu'on pourrait aussi parler de l'œuvre de, je ne sais pas comment c'est, David Redden, voilà. Peut-être qu'on pourrait un peu la présenter et puis on aura relancé cette question de l'esthétique de l'épuisement qui semble, à mon sens, indiquer quelque chose aujourd'hui dans les propositions contemporaines.
ça serait que justement on est tellement sollicité par tant de flux, on est tellement dans ce que certains appellent une économie de l'attention, une écologie de l'attention, où ça clignote dans tous les sens, on veut capter eh bien, cette valeur chère qui est justement, encore une fois, les affects symboliques, etc., pour vendre, pour vendre ce qu'on veut, eh bien, la contre-proposition, l'espèce de pseudo-résistance à tout ça, ou en tout cas le sabotage à tout ça, ce serait eh bien, de laisser attendre l'événement et que finalement le public soit en demande d'un non-événement et parce qu'il ne se passe rien, c'est là où il se passe quelque chose.
C'est-à-dire la
déceptivité
comme
résistance. Et alors là, on cite Deleuze et on dit le plaisir de décevoir. Non, on va sur l'œuvre.
Plaisir de décevoir. Oui.
Ça
oui. Il y a un tempographe. Oui, c'est pour ça que je vois.
Peut-être.
Par le David Radio
The Beginner's Guide.
Voilà.
En fait, David Radio, il a fait un jeu en 2011, The Stanley Parable, qui est un jeu dans lequel il propose une multitude d'embranchements aux joueurs. C'est un jeu en vue à la première personne, donc on ne voit pas son corps, on avance juste gauche-droite, et puis on a une interaction assez limitée en fait, avec le décor. Et à tous les embranchements, il y a un narrateur en voix off qui nous raconte que Stanley, qui est un sympathique employé de bureau, dont tous les collègues ont disparu, devrait faire. C'est-à-dire que le narrateur nous dit Stanley se dit qu'il va se rendre à la salle, à la salle de la cafétéria pour voir s'il n'y a pas des gens qui y sont. Donc là, on a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et de là se tire tout un fil sur la liberté du spectateur et la liberté du joueur par rapport à ça. Et le fait qu'en fait, dans un jeu vidéo, finalement, tout est déjà programmé. Donc en fait, il n'y a absolument aucune liberté, puisque tout ce qui est dans le jeu a été pensé et mis par le game designer. Ce jeu a eu un énorme succès, il a été beaucoup joué, il a eu plusieurs prix de Game of the Year, donc jeu de l'année. Il y a eu beaucoup d'articles à ce sujet-là, et en fait, Davy l'a très très mal vécu. C'est-à-dire que tout à coup, il faisait un petit jeu qui était comme ça, et sans forcément de prétention, et tout à coup, il se retrouvait à voir tous les jours des mails de journalistes qui voulaient contacter, de joueurs qui lui expliquaient que son jeu avait changé sa vie, leur vie, et il n'a pas du tout su gérer ça, et il a un peu foutu tout ça par terre, et il s'est un peu retiré de tout. Et en fait, de cette. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et en fait, de cette expérience, il a tiré. C'était octobre de l'année dernière, 2015. Il a tiré un jeu, donc, autour de ce que c'est que de créer un truc et de ce que c'est que de l'abandonner aux spectateurs et aux joueurs.
Et qu'on nous l'enlève aussi, quand on s'en empare.
Et le jeu, formellement, en fait, c'est une suite. De petits jeux et Davy le présente comme si c'était une espèce de filmographie d'un petit créateur indépendant et donc il montre l'ensemble de ces jeux de 2009 à 2011 de petits jeux dans lesquels il n'y a pas grand chose qui sont juste à visiter, qui sont des petites expériences de qu'est-ce qui se passe dans un décor qui paraît plutôt réel, si c'est plutôt absurde ou si c'est sauter des éléments du décor ou si et au fur et à mesure, il y a une histoire qui se crée en passant de jeu en jeu. C'est lui qui décide quand est-ce qu'on fait passer d'un jeu à l'autre.
Et puis il y a toujours ce système de voix off qui nous guidait, qui nous proposait de faire des choses dans The Stanley Parable, mais qui là, du coup, est juste là en narration pour raconter.
C'est Davy lui-même qui se présente au début, il explique sa démarche, et puis voilà, c'est les jeux de Koda, qui est le programmeur de ces jeux. C'est des jeux auxquels je tiens, c'est pour ça qu'il est présent. Si vous avez des commentaires à faire ou des interprétations à quelle copie desquelles je serais passé, vous pouvez m'envoyer un mail à telle adresse. Et après, il commence à nous faire cette ludographie et à proposer des interprétations de tous ces jeux et à tous ces narrations.
Est-ce qu'on
spoil
la fin? Non, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, la progression de ces différents plateaux de jeu, des morceaux de jeu, mais qui ne sont même pas forcément destinés à être joués. C'est plus des tests, ou comme on écrirait des idées sur un journal intime, ou des briques de réflexion, mais qui ne sont pas du coup destinés forcément à être lus. Et très rapidement, on se rend compte dans la progression du jeu que tous ces petits morceaux de jeu en fait, n'ont pas du tout été réalisés par Coda, mais plutôt par lui-même. Et que via l'expérience de ces univers et sa propre narration, on se retrouve à un voyage en fait, introspectif un peu dans la pensée de David Redden et dans son expérience traumatisante un peu de cette première expérience de ce même parable. Du coup, il s'est fait violer sous le jeu, entre guillemets, et il finit par vraiment péter un câble et s'excuser platement, presque à en pleurer, d'avoir volé les jeux de Coda, qu'il ne comprend pas pourquoi il l'a fait, mais voilà. Et du coup, on termine sur cette.
Très difficile, très glauque. En tout cas, qui est l'expérience d'une œuvre qui est une réaction personnelle à une expérience violente dans la musique du feu. Ça, c'est une sorte de. Enfin, je fais le lien avec ce que disait Marie tout à l'heure, parce que c'est voilà, sortie d'un univers qui est l'univers commercial du jeu vidéo, de charts, de la fraise, du respect du lieu, etc. Et de sortir, de vouloir vraiment délibérément sortir de ça, et faire quelque chose qui soit délibérément limité, là aussi.
Et du coup, on plongeait dans un autre espace, et c'est un peu aussi les thématiques que vous avez abordées dans cette exposition. Vous parlez, moi j'aime bien, encore une fois, cette expression, on a des sujets de discours, mais. De monde liquide, de monde solide et de monde gazeux. Alors, c'est des mots que peut-être je vais vous laisser les expliquer et montrer où est-ce que vous voulez en venir, mais dans cette idée, de monde liquide, il y avait donc. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur ces mots liquides, solides et gazeux? C'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui. Mais dans un monde de flux, société liquide, je pense à Sigmund Bauman, où chacun interprétant ça de manière plus ou moins technophile, technophobe, parfois dystopique. Après, il y avait aussi assez simplement l'idée de montrer trois états. On repart encore une fois sur ces questions de réel et de qu'est-ce qui en est pour qui. Et dans ces fameux états, du coup, ce serait trois états de perception d'un même réel ou d'un similaire. Et donc les univers liquides, du coup, seraient plutôt des univers malléables. Souple, puisqu'il se plie à la perception du spectateur et fait appel à son imaginaire.
Et dont la substance vient de nous, je vais prendre le mot là.
Donc voilà, à travers ces univers entre guillemets liquides, on pose la question de savoir est-ce qu'une œuvre a besoin d'exister physiquement pour être réelle, ou est-ce que si on l'imagine, à partir du moment où on imagine quelque chose, est-ce qu'il existe réel, la différence entre réel et existant et aussi.
Alors, pour le coup, comme croisement entre. De ressentir physiquement quelque chose, et puis ce qu'on disait avant sur la limitation de l'univers que propose chacune de ces œuvres, peut-être qu'il s'agit de parler aussi de l'idée de, comme dit Mélio, les montagnes qui sont juste derrière avec leur dispositif de réalité virtuelle hyper coincée dans lequel on se colle dans les murs et sur lequel on finit échoué sur un matelas en se voyant à moitié dans une caméra, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui, je veux dire, par rapport à la débauche de recherche d'essai, de perfection, de sensation, de coïncidence entre la fiction et la réalité, de la plupart des projets de réalité de l'actuel, là on est clairement à un endroit de retrait de personnes qui ont décidé d'utiliser le minimum, surtout de le faire jouer, à un endroit où ça se frotte avec le corps. Quoi, avec qu'est-ce qui a déterminé le choix de cette pièce?
Du coup, comme dit Emilio et Yves Paquet, c'est des jeunes artistes qui viennent de finir les Beaux-Arts et leur projet de fin d'études, c'était une installation qui s'appelle Welcome Back Baby et qui était basée sur ce principe-là, c'est-à-dire d'avoir une espèce de salle d'attente avec tout le dispositif que peut avoir un corner dans un aéroport où on est complètement déshumanisé comme ça, qui est juste fait pour personne, et d'avoir une plante verte parfaitement placée, d'avoir des tableaux qui ne représentent rien du tout, d'avoir une vidéo avec que des gens qui sourient, et eux ils performaient un peu dans cet espace où ils étaient bien roses, ils posaient leur main sur le pôle des gens qui venaient en souriant. Et après on accédait à l'espace de l'expérience, parce que donc, c'est une salle d'attente, donc on attend quelque chose, en l'occurrence on attendait l'expérience. On entrait dans une salle avec un casque de réalité virtuelle et un casque son. Et dans cette salle, il y avait un mur éclairé, rose, et on se voyait par le biais d'une caméra, donc d'un point de vue, l'objectif de la caméra, d'un point de vue objectif à la troisième personne. Et donc on se voyait entrer dans cet espace, dans le casque de réalité virtuelle, et au bout d'un certain temps, on disparaissait. Et avec quelque chose de tout simple en fait, mais qui provoquait des réactions assez intéressantes après de la part des gens, en fonction de leur vécu de chacun, en fonction de, des gens qui trouvaient ça super bien, super agréable de disparaître, d'autres qui étaient terrorisés, en fonction de l'âge, c'est des choses. Nous, on connaissait cette pièce et on les connaissait eux, et donc à partir de cette pièce, on avait envie de leur proposer une production pour l'expo et de continuer à travailler ça. Et donc ils ont été assez libres là-dedans en fait. Donc là, ils proposent une deuxième version, on peut l'appeler une 2. Donc il y a à nouveau une forme de plus modeste salle d'attente. On est assis sur la salle d'attente, pardon, c'est les sièges de la salle d'attente qui sont là-bas normalement. Donc on a déplacé pour le moment. On est assis sur le verre d'art et donc on entre dans la pièce derrière. Je ne sais pas si vous l'avez tous fait ou si je vous gâche la pièce ou pas. C'est la troisième pièce qu'on vous gâche, donc c'est pas grand. Donc on entre avec un casque de réalité virtuelle et on se voit de la même façon à la troisième personne, sauf que donc on entre dans une pièce qui est entièrement bleue, donc ce bleu là que vous pouvez apercevoir un peu ici, et qui sert à faire une incrustation en temps réel, une espèce de décor tropicalo-idyllique. Mais en images de synthèse, qu'on reconnaît être des images de synthèse, avec un lit au milieu, avec une petite fontaine, avec des petits arbres, et puis une voix qui nous chuchote dans l'oreille juste derrière, des choses très agréables, et qui nous invite à nous reposer, à rentrer dans cette pièce, et à un peu perdre justement le sens de ce qui est autour, en tout cas, et à nous asseoir sur le lit, nous allonger, à respirer.
Il peut avoir l'effet complètement inverse, ça va lui être assez angoissante.
Je pense qu'il y a plusieurs effets à vivre aussi.
On passe par tous les réunions d'humeur de Facebook, quoi.
Donc c'est dans une pièce qui fait 2,50 m par 2,50 m à peu près, donc effectivement on a un casque de réalité virtuelle sur les yeux, donc on ne voit rien, on se voit à la troisième personne.
On a l'impression d'être dans un univers beaucoup plus grand que ce qu'on est réellement.
Oui, et puis on oublie en fait, parce que de toute façon, et vite on ne se pose plus la question, mais vite aussi on y est reconfronté, puisque comme disait Thierry, on se cogne tout simplement dans les murs. On n'arrive pas à s'asseoir sur le lit, on s'assoit à côté, on s'assoit par terre, on casse la gueule. Et tu veux faire une voix. Et puis on finit, quand on a enfin réussi à se mettre sur le lit et qu'on a enfin réussi à essayer d'être un peu zen, et ben, ça se termine et on enlève ce casque, on a les néons dans la gueule comme un vieux parking et c'est assez brutal aussi.
Alors que ça se fait justement à présent, c'est vrai que c'est le point commun de toutes les œuvres, c'est cette attente et ce moment où on se met nous-mêmes aussi en attente de quelque chose, d'un événement, d'un autre événement. Et peut-être aussi qu'il y a un lien à penser avec, de manière un peu plus macroscopique, cette idée de programmation, on en a parlé un peu aussi ici, le code qui fait qu'aujourd'hui, si on aborde un peu des concepts neuro quelque chose, hein, mais ne me regarde pas comme ça n'est pas clair. Et non, mais le code maintenant, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui nous écrit, c'est ce par quoi on pense aussi. Seulement, on n'a pas tous les moyens de coder. Du coup, on est exclu aussi de quelque chose qui façonne des cadres de pensée. Je fais référence en 2 secondes, mais je ne vais pas rentrer trop dedans. Mais lorsque on est passé d'un système oral à un système écrit, eh bien, il y a eu justement la mise en place de ce que Jacques Petit, par exemple, appelle la raison graphique, donc qui s'est formulée par des tableaux, des listes, la possibilité de comparer par rapport à des faits, etc. Donc, autre modulation de la mémoire, autre perception de tout un tas de choses. Et aujourd'hui, le code, eh bien, c'est l'écriture contemporaine, mais donc une écriture dont tout le monde n'a pas ni la clé, ni ci, ni ça. Vous avez compris. Du coup, qui est-ce qui tient les manettes de ce que l'on va voir, de l'architecture du web, de ce que l'on va pouvoir penser, de la recherche auquel on va pouvoir accéder? Eh bien, ça va être en grande partie les programmeurs, les développeurs, etc. Donc, qui ont une responsabilité qui doit être aussi éthique et qui doit surtout pas arriver à créer une sorte d'entonnoir où finalement, eh bien, il n'y a que du prévisible, du programme. Et peut-être aussi dans ces propositions qui sont sur de l'attente, qui sont sur l'idée de justement qu'on va rendre imprévisible ce qui est prévisible. Peut-être qu'il y a des choses aussi à penser de ce cas-là, et je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui se font sur l'imprévisibilité des programmes, et c'est un thème qui doit être pensé, posé, etc.
Oui, tout à fait, et puis pour prolonger ce que tu dis, point commun, c'est de partir d'univers qui sont connus pour le fait de donner lieu à des performances, pour donner lieu à une effectivité, c'est l'effectivité des jeux vidéo, l'effectivité du web, le fait d'être dans des univers qui habituellement n'ont pas de limite, et de travailler justement là sur quelque chose qui est délibérément restreint, bon, à la fois pour évoquer une question de liberté, mais aussi de créer des univers qui sont à échelle délibérément restreinte, hein, pour poser des questions qui ne sont pas posées lorsqu'on a affaire à la totalité du système. Là, ça me semble vraiment typique de la route Sarovski, puisque le travail de la route Sarovski, c'est vraiment un travail critique, c'est vraiment un travail d'analyse critique de l'univers. Et on pourrait en dire autant du travail de Léo et de Paquet, je trouve très fort en tant que travail critique sur la promesse de la réalité virtuelle. Quoi. C'est-à-dire, la promesse d'efficacité, la promesse de réalisation, la promesse de la promesse fictionnelle, la promesse de promesse, qui sont délibérément à toute petite échelle justement pour retourner ça et pour le mettre en critique.
Je pense qu'il y a une partie importante de tous ces travaux où et ça revient à ce que disait Marion sur la fantastique d'épuisement, où ces artistes essayent d'aller au bout de mondes qui sont conçus, d'aller jusqu'au bout de ces mondes conçus, pour nous forcer aussi à un moment donné à venir revenir à un monde perçu.
Et à détruire ces mondes.
Bah,
qui ont été construits. Parce que, et du coup, on fait la boucle avec le titre de l'exposition, et c'est par contre on a commencé. Et je me disais, enfin, c'est le modérateur, hein, mais que peut-être on pourrait aussi laisser la parole.
Il y avait quand même une question
sur les groupes de jeu. J'ai l'impression que c'est bon, ça va des contacts, mais sur l'un des que vous avez dit, mais ça pose aussi la question de la faille, c'est-à-dire comment, à travers un environnement codé qui est déjà là et qui a des limites en fait, et nous, moi, artiste ou explorateur du web, etc., je n'ai pas accès à ce langage codé. Je vais à l'intérieur de ce langage-là essayer de trouver des moyens de faille et du coup peut-être pas forcément détruire le monde de l'entreprise, mais en tout cas le subvertir et du coup le modifier.
Il y a l'idée que c'est là où ça dysfonctionne,
voilà.
Que c'est, qu'il y a une position critique possible. Parce que l'industrie ne rêve que de fonctionnement.
Et puis c'est le moyen de se rapprocher, de se rapprocher aussi. Oui. Dont on était peut-être aussi exclu parce qu'on est justement codé, etc. Et d'ailleurs, Minecraft, c'est assez. Attends, je te donne la parole. C'est assez intéressant de voir l'esthétique super basique. Parce que justement. Non, tu voulais dire quelque chose. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Très bien, débat.
Non, basique, alors, c'est pas basique parce qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Mais. Non, c'était juste par rapport à la profane. Enfin, grosso modo, c'est la profanation. C'est les différences entre l'idole et l'iconoclaste et l'iconoclaste. Enfin, celui-là qui adore les idoles et celui-là qui préfère les détruire. Ceux qui les détruisent, grosso modo, démontent le système, donc posent la question du signe et donc remettent en question le signe. Donc quand on s'amuse à faire ça, par exemple, c'est ce qu'on fait. Quand on y joue simplement, on ne le fait pas.
C'est pas forcément une histoire de destruction, mais ça peut être l'idée d'inventer une pratique.
C'est là jouer avec, c'est comme la culture.
Oui. C'est d'inventer une pratique là où l'industrie propose un usage.
Mais tu, quand tu dis quand on joue, quand on ne le fait pas, moi j'ai. Enfin, ça dépend comment on joue. Parce que du coup.
Tu as la pratique.
Non, mais je sais pas, GTA donc, ça s'appelle Diversity, puis ça, justement, ça joue sur le côté on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre en arrêt la quête et buter des gens dans un peu pour rien. Mais ce qui est dingue, c'est que dès les premiers jeux vidéo, même avec des histoires hyper basiques, des fois, en tout cas en tant qu'ancien joueur et tout ça, des fois j'en ai rien à faire de la quête et j'allais m'amuser à embêter les PNJ qui en plus ne réagissent pas parce que c'était pas du tout créé le jour, et juste à les bloquer par exemple, c'est hyper culte, le révérend dans Tomb Raider, le fou dans la chambre froide, des trucs comme ça, et on s'invente tout un monde. On n'est pas du tout en train de faire ce qu'on devrait faire dans le jeu vidéo, en fait. Enfin, ça ne sert à rien, en fait.
Mais c'est amusant, du coup.
C'est même pas une quête secondaire, je veux dire.
Non, mais c'est ça, mais du coup, c'est la question de la liberté, de vouloir, d'essayer de s'approprier ce jeu pour en faire un peu ce qu'on veut et quand même autre chose. Du coup, ça reprend vraiment cette idée de ce salaire par rapport. Où on nous laisse vraiment croire en fait qu'on est guidé et que d'un seul coup, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on pourrait faire ce qu'on veut. Et très rapidement, on est rappelé à l'ordre par cette voix off qui, au bout d'un moment, dit non, mais t'as pas du tout compris ce que je viens de te dire, j'allais prendre la porte bleue, pas la rouge, puisque c'est comme ça, tu vas recommencer le jeu complètement à zéro. Et il y a vraiment un épuisement comme ça qui se crée, parce que systématiquement, on est renvoyé au tout début du jeu. Jusqu'à un moment même où cette voix off s'énerve vraiment, elle finit par nous dessiner une grosse ligne jaune par terre pour dire voilà, c'est là qu'il faut la suivre. Et le jeu, du coup,
comme chez Ikea.
Ça peut passer par là. Exactement. Et le jeu, en fait, au fur et à mesure d'essayer de le craquer, de se l'approprier, d'aller chercher ses limites, plus on va chercher ses limites, on va détruire en fait l'univers. Plus le jeu nous fait repartir en arrière, plus il s'épuise lui-même et plus il s'auto-détruit.
Ça finit comment du coup? Enfin,
ça finit jamais.
Il y a plusieurs fins possibles.
Il n'y a pas vraiment de fin unique. Alors, justement, puisqu'on en est avant de conclure, qu'on en est à la définition des espaces, des limites que propose chacun de ces projets. Comment est-ce que vous avez pensé leur exposition? Qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix des œuvres, ça vous en avez parlé déjà, mais leur côtoiement, les relations qui s'entretiennent entre eux, les rencontres,
le choix des œuvres, il y a deux choses sur lesquelles on n'est pas allé, mais qui sont importantes. C'est d'abord, on a envie de montrer des très jeunes artistes.
On n'a pas parlé du monde passé à côté de
Hachetel
et d'Edouard Chouchou.
Oui.
Ouais.
Et on n'a pas parlé d'un Damasio qui pourtant, quand on parlait des limites du monde tout à l'heure, finit sa promenade sonore par une phrase que j'ai trouvée magnifique qui était « Comment savoir qu'un trou est un trou quand on n'en voit pas les bords ?»
Ce qui est quand même une chose de
Et ça c'est important pour nous, et on revient du coup à ce que quand tu disais qu'on avait des expos dans des appartements avec des artistes qui n'avaient jamais exposé, des artistes confirmés, et nous on a envie aussi de faire ça, de pouvoir se faire se confronter les deux, et des très jeunes artistes, et des très jeunes artistes.
Oui, parce que c'est vrai que c'est...
Et la deuxième chose sur laquelle on n'est pas revenu, encore sur le choix des œuvres, c'est que c'est important pour nous aussi d'essayer de montrer des œuvres qui s'expriment avec différents médiums et pas d'être purement justement dans l'art numérique, pas digital, parce que le digital en français c'est les doigts, c'est un art des doigts.
C'est le programme Allen, ça, qui appelle sa place digitale aussi.
Bah, c'est l'anglicisme.
C'est un duel anglo-saxon et français.
Bien sûr, on sait tous où ça vient un peu, mais pourquoi d'un coup on ne peut plus utiliser le mot post-internet parce que d'un coup je te relaisse la parole, etc. Mais enfin, avec Philippe Ries de XPO qui montre justement en collaboration avec elle ce programme qui s'appelle Post Digital. Oui, ben non. Post-internet c'est mort, mais il appelle ça post-digital. Pourquoi pas numérique, enfin, bon, pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin de nommer bon, c'est sur la question d'épistémologie.
Là, c'est vraiment une question de marché. C'est pas une question esthétique, franchement.
C'est une question de couleur.
Il y a une théorie là-dessus, il y a Lev Manovich quand même.
Oui,
sur le langage des nouveaux médias, peut quand même poser des bases. Je pense qu'on peut un peu continuer derrière. On peut peut-être continuer juste. Mais l'épistémologie, ça a du sens. Hein. Il faut juste le faire, mais il ne faut pas que les Français se laissent bouffer par les langues. Peut-être plus que le problème.
Oui, non, mais je viens dans le fait que tu vas te mettre à vouloir absolument bien post-digital et pas post-numérique, ou post-digital et pas post-internet. Là, on est sur des questions de marketing.
Oui.
Parce que si tu regardes, tu vois, les textes théoriques qui existent là-dessus, et Lev Manovich, c'est vraiment pas le moindre, enfin, c'est vraiment super intéressant. Et notamment le dernier, c'est vraiment super intéressant, mais on voit bien que les débats esthétiques ils sont plus larges que ça. Ils ne sont pas coupés au plus clair. Mais bon, peut-être que là, ça nous emmène à un moment.
Des œuvres
en dehors de l'expo,
à travers des médias différents, et qu'il y ait de la vidéo, et un bouquin, et des pochettes, et des textes, et du son, et des chimères, et un vidéo, et voilà. Ça, c'est important pour nous aussi. Et je pense que du coup, ça influe aussi donc, sur la question que tu posais sur comment on a poussé les dispositifs de l'opposition.
Ouais.
Parce que de fait, ça.
Oui, c'est vrai que le fait de varier tous ces médiums nous permet aussi de capter un public, aussi, de lui proposer plusieurs entrées dans l'exposition, puisque il n'y a pas vraiment un sens en fait, pour faire cette expo, on peut la prendre un peu dans tous les sens, et c'est au fur et à mesure qu'on va de pièce en pièce que chacun arrive à tisser les ficelles entre les œuvres, et de proposer donc, tous ces médiums différents, on va aussi hameçonner un public, enfin, c'est aussi ça, pour l'amener ensuite à rentrer plus dans le thème de l'exposition. Et s'il a été curieux pour une pièce, du coup, si sa curiosité a été poussée, il va peut-être plus facilement être amené à aller voir aussi les autres.
Oui, et puis d'avoir des œuvres qui ont des degrés de lecture assez différents.
Votre expo à l'image des œuvres présentées, ou laisser justement les visiteurs s'emparer des petites feuilles et s'approprier du coup. Et du coup, on est loin du schéma et du théâtre et des futurs.
On a songé à un moment à le faire pour dévoiler le schéma
des futurs. Derrière, j'ai une discussion avec quelqu'un qui faisait futurs et curateurs parce que justement, ils imposaient des axes de lecture qui ne permettaient plus ni aux visiteurs de s'approprier, aux artistes de s'exprimer.
Il faut choisir les œuvres
au hasard
ou faire que des
monographies. Non, il faut peut-être choisir les curateurs.
C'est un autre débat.
Voilà, en revanche, il est clair qu'il n'y a pas de limite très nette, mais il y a quand même deux termes d'un curseur, je trouve, entre les curateurs qui ont une approche extrêmement thématique. Et c'est vrai que cette approche-là, souvent, contraint très très fort la lecture des pièces. Je ne sais plus qui disait que les pièces devenaient des sortes de démonstrations comme ça. Ah oui, alors ça, je pensais pas à ça. D'accord, oui. Donc, je pensais à Timothée Chalamet, en fait, il y a un texte de Timothée Chalamet qui est très très bien là-dessus. Enfin, dit qui explique que ces expositions-là, souvent, condamnent la lecture des pièces. Enfin, à légitimer les idées des commissaires. Et puis, des expositions qui, au contraire, ouvrent une question sans demander aux œuvres de la résoudre. C'est une des choses, une des raisons pour lesquelles je trouve que cette exposition-là offre un très bon niveau de lecture. C'est qu'elle laisse la question complètement ouverte. Elle ne demande pas aux œuvres de répondre. Et c'est aussi ce qui fait, je trouve, que les différences des œuvres ne fonctionnent plus entre elles.
Je pense qu'on ne peut pas répondre à la question de savoir ce qui est réel. C'est très prétentieux. Mais nous, ce qui nous intéressait aussi avec toutes ces pièces, c'est qu'elle continue de poser cette question. Et qu'elle l'aborde aussi, peut-être chacune un peu à la façon.
Mais c'est sûr que c'est un risque, comme tu disais, dans des expositions thématiques, d'essayer de faire rentrer, comme des jouets des enfants, d'essayer de faire rentrer dans le truc rond, de faire un petit marteau. C'est effectivement un risque. Et donc après, sur le dispositif, sur la saison, c'est ça que tu voulais dire, comment on a fait la saison?
Après, c'était important, vu qu'effectivement, nos pièces sont utilisées des médiums différents, c'était aussi important qu'elles aient leur espace propre, puisqu'elles sont présentées, c'est un peu contradictoire, mais elles sont toutes présentées dans un espace ouvert et commun, sauf effectivement la pièce de l'expérience qui est derrière, qui a besoin d'être isolée. Mais le fait qu'elles soient toutes présentées en même temps dans un même espace ouvert, il fallait trouver aussi une façon pour qu'elles ne se parasitent pas, mais qu'elles continuent aussi à communiquer les unes avec les autres. Donc d'essayer de trouver une façon de les présenter pour qu'elles aient vraiment chacune leur propre espace.
Et moi, je me permettrais de rajouter que vous avez pensé, et ça c'est vraiment très important on fait une exposition à mettre des fauteuils avec table basse, des petits livres consultables, et ça paraît presque accessoire pour certains, et il me semble aussi que c'est essentiel parce qu'on recrée des rythmes de visite. Là, on sait que c'est sur un flux parce que les gens viennent déposer leurs enfants, je crois qu'il y a tout un tas d'activités à côté, et donc ça permet de marquer un arrêt. Et c'est aussi une réponse à tous ces vernissages que l'on fait en rentre. 3 minutes, on est déjà reparti. On n'a pas plus le temps non plus. Et donc, en fait, vous avez aussi, malgré tout, le dispositif ou les conditions de sécurité pour créer de l'attente, créer à ce que justement quelque chose soit en place.
Et un espace qui n'est pas fonctionné. Mis à part la pièce, qui en a besoin sans que je l'apporte, mais sinon.
Après, on est dans un espace qui est difficile à cloisonner aussi.
Qui a déjà été.
J'ai.
Ouais.
Non, mais du coup, effectivement, la première contrainte, c'est la contrainte technique, donc c'est celle qu'on va régler dans un premier temps, mais je pense que ce que tu disais, c'est intéressant dans le fait que les espaces ne se parasitent pas, c'est qu'ils ne se parasitent pas du point de vue du spectateur, c'est-à-dire que là où le spectateur est et là où il vit l'œuvre qui est devant lui, il ne faut pas que ce soit le même, ça puisse être le même espace que l'œuvre d'à côté. C'est là où c'est important. Au-delà du son, parce que forcément, on pense, quand on dit parasité, on pense au son et à la lumière. Ça, c'est
à l'image, principalement aussi. C'est vrai que c'était un peu un risque quand on a commencé à monter cette exposition, où du coup, on avait quand même énormément de vidéos qui tournaient tout autour du spectateur. Enfin, c'est quand même poser la question de l'effet que ça allait donner. Est-ce que ça n'allait pas être un trop, quoi. Et au final,
Alors, pour l'instant, ce que vous appelez parasitage, vous provoquez des relations entre les œuvres qui sont très nombreuses. En fait.
Là, ça se parasite pas.
Non, mais justement, c'est dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'on a des croisements qui sont très nombreuses, donc on les rencontre.
Marion, est-ce que.
Moi, je me laisserai la parole peut-être à des gens comme ça, si jamais.
Vous avez des
questions ? Je crois que tout le monde a
faim. Oui.
On a déjà
dit. Marion, tu n'avais pas d'autres.
Si, je vais donner le mot de la fin peut-être.
D'accord, vas-y.
Toute une bière. Non, mais merci pour l'invitation, c'était très chouette.
Merci.
Merci.
Merci à vous. Merci. 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 Merci.